Otzma Yehudit, le suprémacisme juif, n'est pas mort avec le CAR, ce parti interdit en Israël en 1994. S'était félicité de l'attentat contre le caveau des patriarches à Hébron, Baruch Goldstein, y avait assassiné 29 Palestiniens. Mercredi, Binyamin Netanyahou a pourtant convaincu le parti du foyer juif de s'allier au filleul politique de Meir Kahana, Otzma Yehudit. Effet exceptionnel ce week-end, l'AIPAC, le plus important lobby pro-israélien aux États-Unis, est sorti de sa réserve habituelle. Jamais il ne commente la campagne électorale en Israël. Mais là, il a fustigé dans Otzmat Yehudit un parti raciste et annoncé qu'il le boycotterait même. Denis Charbit, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur en sciences politiques à l'Open Université de Tel Aviv. Tout d'abord, Otzma Yehudit, c'est quoi et quel est son programme ?
Alors, Otzma Yehudit est effectivement, comme vous l'avez très bien signalé, c'est l'héritage politique du mouvement du parti CAR, du rabbin Meir Kahana, qui avait participé aux élections en 1984, qui avait été élu, et à la suite de quoi il avait été décidé de faire une loi, qui d'ailleurs est toujours en vigueur, interdisant que puisse participer aux élections générales un parti ouvertement raciste, ou un parti niant l'État d'Israël comme État juif et démocratique. Et alors, le parti Kahana ne s'était donc pas représenté, mais il existait encore. Et en 1994, comme vous l'avez signalé également, après le massacre de Hébron perpétré par Baruch Goldstein et assumé, approuvé par le mouvement CAR, eh bien, il a été décidé de le dissoudre. Alors, donc, c'est pour ça qu'il ne s'appelle pas CAR comme son prédécesseur. Mais ce sont exactement, je dirais, les héritiers directs avec Michel Ben-Ari, avec Itamar Ben-Gvir, avec Baruch Marzel. Ce sont eux qui font un culte régulier autour de Baruch Goldstein. Alors leur programme, c'est quoi ? Leur programme, c'est pas simplement le grand Israël. Leur programme, c'est pas simplement l'État d'Israël comme État théocratique, non démocratique. C'est effectivement, outre le rejet de la démocratie parlementaire, ou toute forme d'ailleurs de démocratie, qui donne une voix à une personne, quelle qu'elle soit, quelle que soit sa religion, quelle que soit son appartenance ethno-culturelle, eh bien, ce parti prône ouvertement le transfert des Palestiniens de l'État d'Israël en dehors des frontières, élargit l'État d'Israël, inclut la Cisjordanie, et professe également, je dirais, un racisme explicite. J'en donnerai qu'une petite expression, ce n'est pas un programme, mais c'est un geste. Michael Ben-Ari, par exemple, refuse de serrer la main à un arabe, quel qu'il soit. Voilà, c'est vous dire un petit peu le personnage. Il se multiplie, lui et ses confrères, se multiplient en déclarations extrêmement, à côté de cela, Marine Le Pen, c'est une militante des droits de l'homme. Voilà, je ne peux pas vous dire ça autrement que par cette formule-là.
Denis Charbit, vous évoquez cette loi qui normalement interdit un parti raciste ou qui nie l'existence d'Israël d'être candidat à des élections. Pour se défendre, Binyamin Netanyahou a dénoncé les ponts et les alliances entre la gauche et les partis arabes ou certains députés. Est-ce comparable avec cet accord qu'il a favorisé avec Otzma Yehudit ?
Alors, il ne absolument pas, mais vraiment absolument pas, et c'est pas une mauvaise querelle politique que de dénoncer cette pseudo-comparaison, cette fausse comparaison, pour plusieurs raisons. D'abord, il faut bien comprendre, ce n'est pas ce que l'on a dénoncé, pas l'AIPAC d'ailleurs, hein, mais ce que l'on a dénoncé en Israël, c'est pas simplement que Otzma Yehudit ait signé un pacte électoral avec le parti du foyer juif, c'est que Benjamin Netanyahou a été le parrain de cet accord, au point d'ailleurs qu'il a annulé le voyage qu'il devait effectuer en Russie, à Moscou, auprès de Vladimir Poutine, pour s'assurer que cette union avait bien lieu. Il faut bien comprendre, au parti du foyer juif, beaucoup ont aujourd'hui la nausée. Ils ne se reconnaissent pas dans cette alliance. Donc ce qu'on a reproché à Netanyahou, on ne peut pas lui reprocher que deux partis fassent une alliance, même s'ils sont dans le bloc de droite, ce serait complètement stupide. C'est le fait qu'il a tout fait, qu'il a présidé, qu'il a été encore une fois le parrain. Il n'y a aucune alliance électorale de ce type, et jamais aucun leader de la gauche israélienne, de Ben Gurion à Avi Gabay, en passant par tous ceux que vous connaissez, n'ont jamais présidé, favorisé, encouragé une quelconque alliance. Prenez par exemple, là, les partis arabes ont décidé cette fois-ci de ne pas courir ensemble, donc il y aura deux listes arabes. Les partis sionistes ne sont pas invités à la fête, ni pour encourager, ni pour décourager. Ils ne sont pas des partenaires de cet ordre-là. Alors, à quoi ? Alors, vous allez dire, mais alors, de quoi parle Netanyahou ? Netanyahou parle d'autre chose. Il parle d'un résultat des élections, OK, à l'issue desquelles il se pourrait, mais peut-être que non, il se pourrait qu'il y ait 61 députés qui, du centre jusqu'à la gauche, en incluant également les partis arabes, s'opposent à la formation d'un gouvernement par Benjamin Netanyahou. Pouvez-vous me dire, mais sérieusement et franchement, quel rapport y a-t-il entre une addition arithmétique de plusieurs partis politiques qui refusent de recommander au président de l'État d'Israël la formation d'une majorité parlementaire dirigée par Netanyahou et ce dont on parle maintenant? Il n'y a absolument aucun rapport. Ça, c'est un premier point. Deuxièmement, on peut dire beaucoup de choses des partis arabes en Israël, le Balad notamment, mais également le Hadash et le parti islamiste. On peut leur reprocher énormément de choses. Ce ne sont pas des partis sionistes, c'est vrai. Est-ce qu'il est normal, dans un pays démocratique, et on voit le climat de la campagne électorale se dessiner maintenant, est-ce qu'il est normal, est-ce qu'on a le droit de dire que ces partis politiques cherchent à liquider, j'emploie le mot, c'est le mot que Netanyahou emploie, liquider l'État d'Israël? Mais où a-t-on vu quelque chose comme ça avoir lieu? On est bien d'accord que détruire l'État d'Israël ne peut pas être quelque chose d'acceptable pour l'État d'Israël. Et vous imaginez bien que si ces partis-là visaient objectivement, ils ne participeraient tout simplement pas à la partie électorale. Donc il y a là aussi. Et je terminerai sur un dernier point, Eva. On va supposer que les partis arabes en Israël poursuivent explicitement, voire même implicitement, la destruction de l'État d'Israël. C'est leur affaire. C'est l'affaire des Arabes. Là, on est dans un État juif, et dans un État juif, nous avons un parti de cet ordre-là. Je ne crois pas, c'est une question de conviction cette fois-ci, c'est pas un jugement scientifique, je ne crois pas que l'on puisse mettre en parallèle des choses que des Juifs font quand ils s'organisent politiquement avec ce que font les Arabes, parce que cela nous concerne. Moi, qu'il y ait un parti arabe en Israël qui veuille détruire l'État d'Israël, je le combattrai, mais je ne peux pas en rougir, parce que ça ne me concerne pas. Ce que font les Arabes est leur affaire. En revanche, ce que font des Juifs, c'est mon affaire. Et de ce point de vue-là, créer une quelconque comparaison entre les deux n'a pas de sens lorsqu'on se pose dans la perspective de à quoi doit ressembler un État juif depuis qu'il a été créé il y a 70 ans.
Denis Charbit, dernière question. Dans les sondages, l'alliance Gantz-Lapid est donnée gagnante face au Likoud. Mais cette alliance Gantz-Lapid, est-ce qu'elle pourrait construire une coalition si elle est élue finalement ?
Alors, c'est effectivement quand on aura le scrutin, et il est d'ailleurs peut-être regrettable que la campagne ne parle que de cela. Qu'est-ce qui va se passer le lendemain des résultats ? Alors, il y a effectivement, je dirais, deux critères qui rendent un parti en mesure, et son leader, en mesure de former le gouvernement. Tout d'abord, c'est qui est arrivé en tête. Mais il faut pour cela, non seulement qu'il arrive en tête, mais que l'écart soit assez significatif. Je rappellerai que Tzipi Livni en 2009 est arrivée en tête avec deux sièges d'avance sur le Likoud, et pour autant, elle n'a pas formé le gouvernement. Pourquoi ? Parce qu'il ne suffit pas d'arriver en tête, il faut également réunir, puisque le parti en tête n'a pas 61 députés, ce qui aurait suffi, mais comme il ne l'a pas et qu'il est loin de cela, il doit s'additionner des forces politiques dans l'échiquier politique qui a été nouvellement élu. Et la grande question, donc, ce n'est pas simplement est-ce que Netanyahou, le Likoud ou bien le parti bleu-blanc arrivera en tête, c'est une question bien sûr qui n'est pas sans intérêt et sans signification politique, mais la vraie question, qui sera capable d'additionner 61 députés. Jusqu'à présent, Netanyahou, qu'il ait été en tête ou qu'il était en seconde place, a toujours été capable d'additionner plus de 61 députés. C'est ça, finalement, la vraie clé. Et il est vrai que si les 61 députés sont obtenus avec le concours des listes arabes israéliennes, ça n'en fait pas des partenaires de la coalition à cause du fossé idéologique qui existe entre ces partis arabes et les partis fussent-ils de gauche et du centre. Mais à ce moment-là, qu'est-ce que ça permet? Ça permet de débaucher des partis qui actuellement font partie de la coalition sortante de Netanyahou et qui se retourneront vers Netanyahou en disant, comme on n'additionne pas les 61, si encore une fois cela se présente, accepteront à ce moment-là d'entrer dans la formation du gouvernement Gantz. Mais pour cela, c'est vrai que Gantz ne doit pas simplement arriver en tête avec son parti bleu-blanc, il doit effectivement essayer de parvenir à dépasser les 60-61 députés.
Merci beaucoup Denis Charbit, merci d'avoir été en ligne avec nous ce matin sur Judaïque FM. Bonne journée à vous, merci.
Vous aussi.